divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfoisse.
Bonjour à tous, Daniel Morfoisse en votre compagnie pour le Grand Orient de France. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France, et Catherine Kinsler, professeure honoraire de philosophie à l'Université Charles de Gaulle, Lille 3, et auteur de nombreux ouvrages, dont un Condorcet qui est une réédition attendue, Condorcet, l'instruction publique et la naissance du citoyen chez Minerve. Catherine Kinsler, bonjour.
Bonjour.
Daniel Keller, bonjour.
Bonjour.
Les utopiales maçonniques, Daniel Keller, qu'est-ce donc ?
C'est la troisième édition, et je crois que cette année, nous arrivons à ce qu'on peut appeler un régime de croisière. Et cette manifestation grand public, où se retrouveront des profanes, comme nous disons, et des francs-maçons, est là pour donner un visage au Grand Orient de France, vis-à-vis du monde qui nous environne. Et en même temps, d'organiser une prise de parole collective à un moment de notre année. Et nous l'avons conçu pour que cette manifestation interviennent au début du mois d'avril. Et en même temps, c'est mettre le Grand Orient de France au cœur du débat citoyen, dont nous sommes très certainement une des colonnes vertébrales.
Ces utopiales vont être l'occasion d'aborder un certain nombre de thèmes et d'écouter un certain nombre d'intervenants, maçons ou non. Vous pouvez nous dire un petit peu, alors les thèmes comprendre, transmettre, travailler, partager, s'unir, fraterniser, Catherine Kinsler sera le grand témoin, accueillir, être plutôt qu'avoir, rassembler, le chômage, la précarité, tout ça sont des thèmes, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
L'idée, vous venez de le rappeler, c'est de mettre en perspective les enjeux du monde dans lequel nous vivons.
À partir des
préoccupations qui sont celles des maçons, de montrer ce à quoi travaillent les maçons. La maçonnerie, ça ne sert pas à faire tourner les tables, mais ça sert à réfléchir à comment améliorer l'homme et la société. Et nous allons en faire un peu, non pas la démonstration, mais en tout cas, nous allons essayer de le montrer à travers ces tables rondes dont vous venez de résumer un certain nombre d'entre elles, de nombreux intervenants, philosophes comme Catherine Kinsler ici présente, mais également linguistes, économistes. Nous aurons Pierre Laroutereau qui viendra nous montrer que l'économie, contrairement à ce que l'on nous explique aujourd'hui à longueur de journée, n'est pas une fatalité et un fardeau. Nous aurons également Miguel Abinsour qui viendra nous parler d'utopie en tant que philosophe qu'il est. Et je crois que c'est ainsi que nous allons pouvoir organiser ce croisement des paroles entre des savants, des intellectuels, des francs-maçons, des citoyens passionnés du bien commun qui ont envie de s'interroger sur l'avenir de la société et plus globalement du monde dans lequel nous vivons.
Car, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une conférence publique hein, qui suppose une inscription, Vigipirate oblige maintenant, sur le site du Grand Orient de France, que je rappelle www.godf.org. Ces utopiales, c'est la troisième édition. Est-ce que ça sert à alimenter la réflexion des loges après coup ?
Ça alimente la réflexion des loges parce que d'abord, un certain nombre de loges participent. Et bien entendu, nous allons aussi assurer la diffusion par vidéo streaming d'un ensemble de ces tables rondes, pas de toutes, mais d'un grand nombre d'entre elles, des conférences plénières. Tout ceci doit servir effectivement à consolider les outils qui servent à la réflexion des maçons. Et dans une sorte d'aller-retour, permettent aux loges aussi eh bien de s'appuyer sur une manifestation telle que celle-ci pour approfondir leurs réflexions et permettre aux francs-maçons, partout où ils sont, à travers les quelques 1300 loges du Grand Orient de France, eh bien, d'innerver, je dis bien innerver et pas énerver, d'innerver le débat public et le débat citoyen qui est aujourd'hui exsangue. Et je crois que c'est aussi une des raisons de la crise de société, globalement, dans laquelle nous nous trouvons.
Catherine Kinster, je me tourne vers vous. Vous êtes donc le grand témoin d'une de ces tables rondes, de ces interventions autour de la notion fraternisée avec comme sous-titre dépasser à la fois le communautarisme et l'individualisme. Ma première question, et qui est en lien avec vos travaux, votre réflexion, vos articles dans Humanisme, est-ce qu'il est exagéré de penser qu'il y a un abandon de l'idée républicaine qui conduit de nos jours à une quasi-incompréhension de cette idée?
Oui, merci de m'avoir invité d'abord, bonjour. Je voudrais d'abord dire que la franc-maçonnerie sert à réfléchir. Et ce qui est intéressant aussi dans ces tables rondes, c'est que c'est pas un discours qui vient qui sort du chapeau de quelqu'un. Il y a des travaux qui sont proposés, et des travaux de loge notamment. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de réagir à ces travaux. C'est ça le rôle du grand témoin. Ça aura lieu le 9 avril.
Oui, samedi, voilà. Tout à fait.
Donc je peux pas anticiper. Voilà, je peux pas anticiper sur ce que seront ces travaux, mais j'ai déjà une expérience de l'an dernier, et c'était très intéressant d'avoir justement le fruit de travaux collectifs et de pouvoir justement ajuster, rendre plus pertinent un discours que peut-être on a élaboré de manière plus abstraite. Alors bon, vous m'avez posé une question
vaste, difficile.
Oui, le thème des utopiales, c'est vivre la République, vivre avec un R, mais c'est aussi une allusion à vivre la République. Bon, c'est vrai que je pense qu'il y a un affaiblissement de l'idée républicaine en France, quoique cet affaiblissement ne soit pas populaire. Du point de vue populaire, au contraire, je crois qu'il y a un grand besoin de réappropriation de l'idée républicaine. Il y a une demande. On le voit avec les symboles, la résurgence de la Marseillaise, dont les paroles sont redevenues tragiquement d'actualité, etc. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses. La table ronde à laquelle je suis conviée a pour sujet la fraternité. Or, cette fraternité, on la met à toutes les sauces. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on oublie que c'est le troisième point de la devise républicaine. C'est bien à sa place. C'est-à-dire que c'est pas une fraternité de prescription. Il faut voir en quoi, justement, c'est lié. Ça découle de la liberté et de l'égalité. Si nous nous associons en République, c'est pour proclamer, c'est pour défendre nos droits. Et d'abord, nos droits comme individus. Ça, c'est pas de l'individualisme. Parce que ce sont les mêmes droits. Voilà l'égalité. Et il découle de là une fraternité, parce que des personnes qui se reconnaissent mutuellement comme libres et qui se travaillent pour que leurs droits soient répartis sur l'ensemble de la population sont égaux. Et donc, se considèrent comme frères. Ce sont des points qu'on oublie toujours de repréciser, mais la fraternité n'est pas quelque chose d'imposé. C'est pas une fusion. C'est pas parce qu'on appartient à telle ou telle communauté, on l'a construit, cette communauté politique. C'est pas une communauté comme d'autres. Alors, si précisément je pense que ce thème est important, c'est que l'idée républicaine, bon, elle est grignotée, elle est attaquée par une sorte d'émiettement. Moi, j'appelle ça la contractualisation. Du droit. Alors bon, c'est un terme peut-être un peu technique, mais l'idée qu'on va passer des contrats, une sorte de deal avec des groupes, avec des communautés. Les projets sur le travail, qu'est-ce qu'ils font?
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on voit quand même depuis 20 ans.
On est en train de nous expliquer que des accords d'entreprise vont pouvoir, on pourra se permettre des entorses à la loi ou de passer au-dessus de la loi. Il y a une inversion de la hiérarchie des normes. Bon, ça, c'est quand même des choses que nos ancêtres pas très lointains, en tout cas, se sont battus pour obtenir cette hiérarchie des normes. C'est qu'on s'associe pour défendre ses droits. Ça ne veut pas dire qu'on va être improductif. Ça n'est pas du tout contradictoire. Et je pense que nos économistes seront aussi exposer tout cela. Bon, il y a contractualisation également. Bon, il semble naturel. Bon, c'est une idée comme ça dans l'air qu'on va faire un contrat avec les religions, avec des communautés. Voilà, c'est contraire à la laïcité. Il n'y a pas de contrat. En plus, la République n'est pas un contrat. C'est pas un deal avec des lobbies.
Oui, c'est pas le modèle de Hobbes ni même de Locke. S'il y a contrat, c'est au sens du contrat social de Rousseau où chacun contracte presque avec lui-même.
Et contracte avec lui-même et tous contractent avec tous. Donc voilà, il n'y a pas de partie prenante préalable. Voilà, les parties prenantes sont produites.
C'est pas au profit d'un seul, comme dans le Léviathan.
Les parties prenantes ne négocient pas les unes avec les autres avec des intérêts particuliers et c'est pas le lobby le plus fort qui va imposer sa loi. Au contraire, dans le contrat à modèle rousseauiste, les parties prenantes sont produites par l'acte politique. Alors le fait qu'on va tous se mettre ensemble et réfléchir à élaborer nos droits, les mettre à l'universel pour qu'ils soient possibles en même temps et pour tous. C'est cela qu'on va défendre et ça, c'est pas du tout une idée ringarde.
À la volonté générale, non. Déjà, dans notre actuelle démocratie, d'ailleurs pas toujours même la volonté majoritaire, mais la plus habile, les lobbies, les minorités actives et ceux qui savent se faire entendre qui triomphent.
Oui, on se plaint beaucoup.
C'est une perversion de la République.
Oui,
aussi.
On se plaint beaucoup actuellement, mais alors c'est un thème qui aurait dû venir sur le tapis depuis bien longtemps. Mais on se plaint beaucoup d'une politique désastreuse, d'une sorte de clientélisme dans certains endroits, des quartiers, comme on dit. Le mot quartier est effrayant, ça veut dire mise en quartier, d'une certaine manière. Une forme de clientélisme au terme duquel on laisse se développer un communautarisme de mainmise sur les résidents. Un communautarisme est toujours de proximité. Et la proximité n'est pas toujours très bonne.
Aussi, ça manifeste un abandon de la République, parce que justement, chacun est renvoyé à une appartenance réelle, supposée, revendiquée.
Il y a une assignation. Il y a une assignation supposée. Alors, j'ose même pas appeler ça une politique, mais d'attitude. D'abord, ça veut dire que les terroristes sont comme des poissons dans l'eau. Avec ce genre d'ambiance.
Oui.
Et deuxièmement, la politique des grands frères, pour le dire de manière, pour reprendre un terme qui a été utilisé assez souvent. Mais qui fait les frais aussi d'une telle politique? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles chances donne-t-on à ceux et surtout à celles qui entendent échapper à l'uniformisation de leur vie?
Oui, ou qui voudraient simplement un peu d'air.
Qui voudraient simplement un peu d'air, un peu de respiration. L'appartenance doit se choisir. Elle ne peut pas recouvrir entièrement l'ensemble de la vie et des mœurs. Quel secours est-ce qu'on la rapporte? Alors que la République, justement, elle a pour tâche, bien sûr, de défendre les associations. Ça, c'est pas du communautarisme.
Non, c'est une très belle loi, la loi de 1901.
Voilà, donc les communautés peuvent s'assembler.
Où un de nos frères était le rapporteur et le président, Léon Bourgeois.
Dès qu'il y a une forme de pression pour qu'on adhère obligatoirement à une vision du monde, à une façon de se comporter, etc., là, nous pouvons parler d'un communautarisme social qui débouche sur un communautarisme politique, réclamer des droits.
Est-ce que vous pouvez justement revenir sur la définition qu'on peut donner de ce communautarisme, parce qu'on en parle beaucoup, alors implicitement, déjà en votre propos, vous l'avez formulé, mais est-ce qu'on peut proposer une définition du communautarisme, Catherine Kinsler?
Mais moi, je crois qu'il faut déjà bien distinguer le terme communauté du terme communautarisme. Bon, il y a des communautés qui peuvent s'assembler. Il y a des groupes de croyants, de non-croyants, de culturels, etc.
C'est
la liberté républicaine. Et en plus, la République donne une colonne vertébrale juridique à ces rassemblements, qui sont tout à fait licites. C'est un point qu'il faut bien rappeler, parce qu'on nous a tellement rebattu les oreilles avec l'idée que la République, elle est niveleuse, qu'elle impose partout les mêmes choses. Non, pas du tout. Il y a, au contraire, un foisonnement. Le communautarisme, à mon avis, commence à partir du moment où il y a des pressions sur un environnement, sur des personnes, sur des individus, pour que, au prétexte d'un lieu de naissance, d'une identification, moi j'appelle ça une identification a priori, moi et les miens. Alors bon, on pourrait donner des exemples, mais enfin j'ai coutume de donner un exemple extrait de Conan Doyle. Imaginons une association de gens qui ont les cheveux roux. Bon, très bien, on peut lui donner un statut. D'association. Mais à partir du moment où ces gens qui ont les cheveux roux, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un comme ça dans la rue, disent « Tu n'adhères pas ? Il vaudrait peut-être mieux. » avec pression, menace, etc. Là, nous avons un communautarisme social. Nous avons une formation d'un lobby.
La pression peut même être plus insidieuse que ça, on le sait bien.
Elle peut être insidieuse, mais en tout cas, elle prend toujours la forme d'une menace voilée ou explicite. Et puis après, nous avons le communautarisme politique, c'est-à-dire réclamer des droits. Réclamer des droits, imposer des devoirs particuliers à tel ou tel groupe, parce qu'en vertu de ce qu'il est et non pas en vertu de son appartenance générale. Alors, le mot appartenance, je l'aime pas beaucoup, hein, bon, de sa contribution, de sa présence dans l'ensemble des citoyens. Voilà, donc moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que la République n'est pas un deal. Elle n'est pas constituée de lobbies, c'est même pas une communauté de communautés.
Un des enjeux autour de la République, c'est l'école. Qu'est-ce qui explique la situation de notre école républicaine maintenant, en deux minutes?
Oui. C'est pour ça que j'ai réédité le Condorcet,
oui.
Parce que avec Condorcet nous avons vraiment le noyau profond,
la matrice
d'une école
républicaine.
Ce qu'on pourrait dire, c'est que l'école publique, l'école de la République, elle est victime d'une dislocation. Une dislocation en intensité, c'est-à-dire qu'il y a eu attaque régulière, mais depuis longtemps, à l'égard de ce que Condorcet appelle l'instruction, c'est-à-dire les savoirs disciplinaires. Vraiment, c'est le noyau dur des savoirs. Et c'est de ça que les jeunes citoyens, les futurs citoyens ont besoin, même quand ils ne sont pas citoyens d'ailleurs. Hein, tout le monde en a besoin, parce que c'est la seule manière d'échapper à la tutelle intellectuelle.
C'est la voie de l'émancipation, c'est l'idéal d'émancipation.
C'est pas simplement des compétences qui seront définies de manière instrumentale par rapport à un état de la société.
Eh bien, Catherine Kintzler, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus plus en détail, d'y consacrer peut-être une émission complète. Daniel Keller, merci.
Merci à vous, et la présentation de Catherine Kintzler est éloquente, parce que ces utopiales, c'est conjuguer une réflexion sur les principes, mais en même temps parler de laïcité, de république, des banlieues, de la loi travail. Venez nombreux, toutes les tables rondes... Jean-Marc Monteil, Alain Mentoïla, Benjamin Stora, les conférences plénières, Miguel Abinsour, Pierre Laroutourouz, et je ne les cite pas tous, seront dans l'esprit qui a été évoqué. Il y a déjà 1500 inscrits, il reste encore de la place.
Il reste encore de la place, donc www.godf.org pour ceux qui sont parisiens ou le seront, spécialement le samedi 9 avril et le dimanche 10 avril. Vous trouverez toutes les informations sur notre site. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche, un bon mois. À la technique, Julien Douminc. Réalisatrice Dany Journeau. Bonne journée.